Oh, alors, Sida Blabla, l'information est notre amie.
On attaque Sida Blabla numéro 10 avec la rubrique médicale et on va parler d'hépatite B chez les PD. Il y a une répi, donc une réunion publique d'information d'Act Up Paris sur ce thème lundi prochain à 19h au Centre Wallonie-Bruxelles. On en reparlera dans l'agenda. En attendant, Richard, tu vas nous en dire un peu plus sur l'hépatite B.
Oui, en sachant qu'au départ, ça devait être Jackie, le nouveau responsable de la commission traitement-recherche, qui devait vous l'indiquer et donner toutes les informations que je vais vous donner. Donc, les voici. Selon les des études diverses et variées, mais qui se recoupent toutes entre elles, 70 à 80% des homos ont rencontré le virus de l'hépatite B au cours de leur vie sexuelle, ce qui fait beaucoup. Bon nombre de ces personnes vont guérir spontanément, ce qui est une chose qui est bien pour elles, mais il se trouve que pour les autres, c'est-à-dire 10%, et ce pourcentage est encore plus élevé si vous êtes séropositif, puisque là vous avez beaucoup plus de...
De risque,
pas de chance bien sûr, d'avoir une hépatite B chronique, ce qui n'est pas bien du tout, d'autant plus si on est séropositif. Donc, et là aussi, se partage des trucs, plus votre immunité est basse si vous êtes séropositif, plus le risque est élevé, évidemment, que si votre immunité est forte, mais le risque est d'autant plus élevé si vous êtes séropositif tout court. Donc, je continue en vous précisant, comme j'ai pu vous l'indiquer, qu'une hépatite B chronique est une maladie grave qui nécessite un suivi régulier, des traitements parfois à vie et qui peut conduire à la mort. Les personnes qui ont infecté VIH-VHB risquent davantage de développer une hépatite chronique et l'histoire naturelle de la maladie sera accélérée, ce que j'ai essayé de vous dire incessamment tout de suite. Donc, je continue avec les notes que m'a données Jackie. Pourtant, il existe un vaccin et il est urgent de faire le point sur ses éventuels risques, sur ses bénéfices et d'informer largement. Certaines pratiques sexuelles présentent des risques spécifiques de transmission des hépatites A, B, C, D, puisqu'il y en a 4. En le sachant, il est possible de se protéger et de protéger ses partenaires efficacement. Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de l'hépatite B chez les PD, comme on en parlera lundi soir à la répi à Paris. Donc, comment va se dérouler notre répi? On vous donne un peu le mode d'emploi, comme ça, vous serez préparés à entendre tout ça, et ça sera tellement mieux comme ça. Alors, on va commencer par l'expérience d'un militant d'Act Up Paris, c'est donc Jackie. Notre ami Jackie qui aurait dû être là, dont le but sera de poser les problèmes liés au VHB et de définir les questions auxquelles cette répi devrait répondre, parce qu'il y a de nombreuses questions que cela soulève. Les hépatites, des maladies sexuellement transmissibles, largement sous-estimées, mal connues même chez les personnes très informées, le VIH. Pourquoi? Donc je vais vous lister toutes ces questions. Les risques dus, ça n'arrive qu'aux autres. Quand on développe une hépatite fulminante ou une hépatite chronique, on la développe à 100%, même si au départ le risque n'était respectivement que de 1 ou 10%. De 1 et 10%, là je lis, mais manifestement ça se répète. Donc de 1 et 10% et de 80% chez des homos. Cela fait déjà beaucoup de monde. Donc je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que 70 à 80% des homosexuels rencontrent le virus de l'hépatite B au cours de leur vie sexuelle. La plupart de ces rencontres n'aboutissent à rien puisqu'elles guérissent spontanément, mais il se trouve qu'il y a 10% qui développent une maladie, et chez ces 10%, le nombre est très très élevé chez les séropositifs. Donc là, ça peut amener à une hépatite chronique plus importante et donc aboutir plus rapidement à quelque chose de beaucoup plus grave que si vous étiez séronégatif. Donc, je continue avec les notes de Jackie. Donc, le VHB, lui, est infiniment plus contagieux que le VIH, d'où la prévalence, c'est-à-dire le nombre important de porteurs du virus. Les techniques de prévention efficaces contre le VIH sont peut-être insuffisantes pour le VHB, a eu l'idée dans la première partie de la répi. Manifestement, c'est toutes les notes de Jackie que je vous lis. Donc, tout ça pour vous dire que manifestement, on attrape. Peut-être que tu peux dire quelque chose, Antonin, là-dessus, sur pourquoi c'est plus contagieux que le VIH.
Non, enfin, effectivement, de manière effectivement physiologique, le mode de transmission est accru. Par exemple, ce que certains considèrent comme des risques faibles pour le VIH deviennent des risques très élevés pour le VHB.
Comme la fellation,
mais la salive aussi peut être contaminante, ce qui n'est là où il y a la vraie différence avec le VIH, et ce qui fait qu'effectivement, des pratiques non contaminantes pour le VIH peuvent le devenir pour le VHB. Donc,
genre se rouler des pelles.
Voilà, ça a l'air qu'effectivement, sur la question du baiser, enfin, ça on en parlera lundi, c'est pas. Il y a des études là-dessus, mais effectivement, la salive étant contaminante, il y a effectivement des risques de transmission. L'autre problème en termes de prévalence, c'est que comme il y a aussi très peu, il y a une sous-estimation du risque du VHB, il y a un dépistage plus faible, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus sans le savoir et de manière générale, ben cette ignorance évidemment fait le jeu de l'épidémie et c'est pour ça aussi qu'il y a une plus grande prévalence au VHB.
D'accord. Donc on parlera après du vaccin et des compatibilités avec les traitements et le fait d'être séropos, etc. Donc ça, je ne développe pas, parce que ça sera développé lundi soir. Après, donc on prendra un exemple des Pays-Bas. Après, on continuera avec le pourquoi le dépistage est encore très insuffisant malgré les nombreuses recommandations du rapport Delfrécy, qui est un rapport qui fait le point sur toutes les pratiques médicales qu'on doit avoir par rapport aux personnes séropositives. Donc, ce dépistage est très recommandé donc, dans ses recommandations et c'est une pratique très insuffisamment menée. Donc après, on continue. Alors, pour ceux qui ont qui sont porteurs d'hépatite chronique, alors il y a plusieurs points à développer qui seront le risque de surcontamination par l'hépatite delta VHD, donc l'hépatite D, comment se transmet l'hépatite D, le sperme, le sang, etc. Après, les effets de l'alcool, très méconnus également dans le cadre de l'hépatite B. Puis on continue avec la présentation qui est plus scientifique, qui sera faite par le docteur Jean-Charles Duclos-Vallée, qui a donc un très joli nom, qui est hépatologue au centre hépatobilaire de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, qui est donc un spécialiste. Il est en charge du programme de transplantation pour les personnes co-infectées VIH-VHC ou VIH-VHB. Donc il nous parlera de l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire l'évolution chez les personnes à partir du moment où elles ont été contaminées. Ça va, ça vous va. Et puis au moment où c'est fini. Donc, après, donc, il y a les différentes phases de l'infection au VHD et VHB et leur dépistage, les hépatites fulminantes, l'hépatite chronique, pas d'éradication virale possible. Après, on nous donnera quelques données épidémiologiques, on donnera des points sur le suivi et les traitements, c'est-à-dire si vous êtes concerné, c'est très important de venir, puisque là, vous aurez vraiment tout le panel possible de ce qui est à votre disposition pour vous soigner le mieux possible. Donc là, c'est vraiment le point important. Donc, on parlera des fibroses, de ce que c'est qu'une cirrhose, les risques de cancer, les traitements interférons et antiviraux, l'amivudine et tenofovir. Ces deux molécules sont également actives sur le VIH, donc il y a tous ces points comme ça. On parlera aussi de la transplantation du foie, la transplantation chez les co-infectés, donc qui est plus particulière. Et après, il y a aussi, avec ces co-infections, la surcontamination en plus avec le VHD. Il y aura forcément, donc vous pourrez poser des questions si vous venez. Après, on parlera des différents vaccins disponibles à ce jour. Et on finira par deux expériences, par deux personnes différentes. Donc Claude Lejeune, le président de l'Association des médecins gays, qui parlera donc de son parcours médical en tant que médecin. Et après, le témoignage de Gilles Baudier, qui est président de la toute nouvelle et néanmoins dynamique association SM, Self-Maîtrise et Prévention, l'association ARD, basée sur la recherche des plaisirs du jeu et dans le respect de l'autre. La prévention est une dimension du respect, et ça, vous étiez au courant. Les pratiques ARD couvrent l'ensemble des pratiques dont doivent permettre d'ouvrir le débat sur les risques liés à quelques pratiques, comme le FIST, par exemple. Après, il y aura un débat où on parlera aussi de la fellation, de la pénétration, des sondes, etc. Que de plaisir en perspective. Élodie, tu nous rappelles quand ça a lieu?
Oui, alors sur ces bons mots de fist, etc. Ça a lieu lundi, donc la semaine prochaine, à 19h au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, dans le premier. Voilà, on se retrouve tout de suite.